Swingtime 2014. Swingtime, une émission préparée et proposée par Bobby Dernager.
Mais qui es-tu donc, l'harmonica ? Cette même question posée inlassablement à Charles Bronson dans le film « Il était une fois dans l'Ouest » pourrait être posée à nombre de grands harmonicistes de blues. En effet, personnages troubles et mystérieux pour la plupart, semblant débarquer de nulle part, mentant parfois sur leur vraie identité, ne sont-ils pas tout autant énigmatiques que le personnage que joue Charles Bronson dans le célèbre western ? À peine éclairés par un halo de lumière, leurs silhouettes se devinent à peine quand ils sont sur scène, ceinturés de leurs 12 harmonicas, comme autant de cartouches prêtes à être insérées dans leurs gâchettes. Électrons libres évoluant comme des mercenaires, semblant indépendants de l'orchestre dans lequel ils jouent, tirant de leurs minuscules binious des sons lancinants ressemblant à des incantations vaudou. Les harmonicistes de blues seraient-ils une race de musiciens à part ? Qui peuvent-ils bien être derrière ce petit instrument diabolique ressemblant à un jouet pour enfants ? L'harmonica, instrument à l'origine floue, conçu certainement en Europe, en Allemagne, mais rapidement exporté aux États-Unis où il deviendra populaire, indique le Larousse. Car oui, l'harmonica est bien l'instrument le plus caractéristique, littéralement indissociable de la musique américaine et surtout du blues. Un instrument qu'on peut trimballer partout dans sa poche, qui se marie parfaitement avec ce style de musique, car ce sont immédiatement des notes bleues qui en sortent dès qu'on souffle dedans. Et l'harmoniciste de blues, lui, trimballe toujours cette allure de desperado mystérieux et intrigant, celle d'un fugitif qui se cacherait au sein d'un groupe itinérant le temps que ses méfaits soient un peu oubliés. D'ailleurs, des grands harmonicistes dont nous allons traiter aujourd'hui, plusieurs ont connu des destins peu ordinaires, dignes des romans noirs, disparaissant dans des circonstances mystérieuses, assassinés au détour d'une rue nocturne, tandis que le meurtrier disparaît au loin. Des meurtres d'ailleurs jamais vraiment élucidés. Ce qui ne fait qu'alimenter encore plus le mythe autour de l'harmonica blues et de ses glorieux mais étranges adeptes. Et on aimerait avoir l'opportunité de demander, les yeux dans les yeux, à un Sonny Boy Williamson ou à un Little Walter. Mais qui es-tu donc, l'harmonica ? Blues After Hours. Ce mystère qui entoure les harmonicistes de blues, commençons par le cas le plus emblématique, celui de Sonny Boy Williamson. Lequel, me direz-vous ? Sonny Boy Williamson 1 ou bien Sonny Boy Williamson 2 ? Car oui, ce nom a été porté par deux personnes distinctes et tous les deux sont des harmonicistes incontournables du blues. Non, ils ne sont pas frères et ne seraient unis par aucun lien de parenté. D'ailleurs, si Williamson est bien le nom de baptême d'un des deux, nul ne connaît avec certitude le vrai nom de son double, qui se faisait donc surnommer lui aussi Sonny Boy Williamson. Ce qu'on sait par contre, c'est que tous les deux jouaient dans les mêmes années, de l'harmonica et qu'ils sont devenus séparément des grands maîtres en la matière. Lequel des deux serait donc le premier à avoir acquis une notoriété? Lequel des deux serait le premier Sonny Boy Williamson? Sonny Boy Williamson 1, naturellement. Mais comment être bien sûr lorsque les deux ont proclamé, être le seul, l'unique, le vrai Sonny Boy Williamson, accusant l'autre de plagiat? Lequel des deux Sonny Boy dit alors vrai? Lequel est le premier des deux? Les choses se compliquent encore lorsque l'on découvre que le premier Sonny Boy Williamson à avoir connu le succès était le plus jeune des deux, et que l'usurpateur serait donc le plus âgé. Mais si vous disiez cela au plus vieux, il se mettait à ruer dans les brancards et menaçant, montrait ses poings. D'ailleurs, pour régler ce grave litige, Sonny Boy Williamson le 1 se serait mis un jour à la chasse de Sonny Boy Williamson le 2 pour, je cite, buter une bonne fois pour toutes ce voleur de renommée. Il ne retrouvera cependant jamais son double et disparaîtra prématurément, assassiné dans des conditions restées obscures, laissant à son concurrent la seule jouissance du nom, Sonny Boy Williamson. Rendons donc justice à l'infortuné Sonny Boy Williamson, surnommé le 1, en débutant cette émission avec son « Good Morning Little Schoolgirl », une version revue et corrigée du « Grand méchant loup », jugez plutôt les paroles. « bonjour petite collégienne, puis-je te raccompagner à ta maison ? Dis à ton papa et à ta maman que moi aussi un jour j'étais collégien. » Le morceau est aujourd'hui utilisé dans une publicité télé américaine. En faveur de quel produit ? Pour le Viagra, madame.
Can I go home? Can I go home with you? Now you can tell your mother and your father that Sonny Boy's a little schoolboy. I woke up this morning. Lord, I couldn't make me. Why that I didn't have no blues, woman, but I was all messed up and down. Now you be my baby, come on and be my baby. I'll buy you a diamond. Well, if you don't be my little woman, and I won't buy you a doggone thing. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna fly all over Disneyland. I'm gonna fly all over Disneyland. Don't find the one that I'm loving, and I ain't going to let my airplane down.
me. I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it. I may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. You know, if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else.
Voilà, c'était Sonny Boy Williamson, le 2 cette fois, avec son tube Help Me. Mais revenons au Sonny Boy Williamson 1, si vous permettez. Voilà ce qu'en écrit Gérard Herzhaft dans son encyclopédie du blues. Fils d'une famille de métayers du Tennessee, John Lee Williamson apprend tout seul à jouer de l'harmonica. On le retrouve dans un medicine show où il danse, fait le pitre et joue de l'harmonica au début du spectacle. C'est là qu'il acquiert le sobriquet de Sonny Boy à cause de son jeune âge. Il est affublé d'un grave problème d'élocution, bégayant à l'infini et parfois n'arrivant pas à sortir une phrase entière. Le blues de cette région, le Tennessee central, est dominé par la personnalité du guitariste-chanteur Sleepy John Eustace. Le jeune Sonny Boy lui voue une admiration sans borne et surtout à son harmoniciste, Hammy Nixon, dont il sera au départ un fidèle émule. Il réussit à se faire admettre dans l'entourage de Eustace et devient très proche de Yank Rachel. Hammy Nixon est l'harmoniciste sur lequel Sonny Boy a modulé son jeu, tandis que son chant est dérivé de la manière gutturale et mourante qu'a Eustace de pleurer son blues. En 1934, Sonny Boy est à Saint-Louis, s'y lie avec Henry Townsend, Walter Davis, Bijo Williams et Robert Nightwalk. Puis Sonny Boy s'installe à Chicago et écume tous les clubs, devient un des favoris de la clientèle noire grâce à un jeu de scène dynamique et des qualités d'harmoniciste qui le place alors hors de portée de ses concurrents. À partir de 1939, Williamson est un des tout premiers à moderniser son blues pour répondre aux attentes des nombreux nouveaux migrants en provenance du Mississippi. Sonny Boy est un personnage à plusieurs facettes, impitoyable avec ses concurrents et jalonnant son territoire, mais dans le même temps, amical avec les apprentis bluesmen, les accueillant, les conseillant. Il guide ainsi les premiers pas de Muddy Waters, donne des leçons d'harmonica à Little Walter, qui à l'époque est son strict imitateur, à Forest City Joe, à Louis Myers, Snooty Pryor, etc., etc. La domination de Sonny Boy sur le blues de l'après-guerre est telle qu'il suscite non seulement nombre d'imitateurs, mais aussi des musiciens qui vont jusqu'à prendre son nom, se faire passer pour lui, pour obtenir de meilleurs engagements. Et oui, les photos de musiciens étaient rares alors et il n'y avait pas de pochette sur les 78 tours. Le plus célèbre d'entre eux est bien sûr Alec Rice Miller, le Sonny Boy Williamson numéro 2. Accompagné de Walter Davis et peut-être de Pete Joe Williams, le vrai Williamson retourne alors dans le sud, un pistolet dans la poche pour régler son compte à l'imposteur. Mais heureusement pour les amateurs de blues, il ne réussit pas à le retrouver. Comment aurait évolué le Chicago Blues avec John Lee Williamson ? Sonny Boy buvait beaucoup trop et n'hésitait pas à faire monter pour danser sur scène de jolies femmes de l'assistance. Tout en jouant et chantant, il les embrassait et les caressait. Cela donnait très souvent lieu à des querelles parfois violentes. Le 1er juin 1948, après une performance de ce type au Plantation Club, Sonny Boy rentre chez lui particulièrement imbibé d'alcool lorsque le mari d'une des dames courtisées par l'orniciste durant la soirée le suit et lui perce le crâne avec un pic à glace, interrompant ainsi la carrière d'un des plus grands créateurs de l'histoire du blues. On revient maintenant à Sonny Boy Williamson le 2 avec Bye Bye Bird et Bring It On Home.
I'm going. think about the good times I once have had. Soul got happy, my heart got glad. I think about the way you love me too. You can bet your life I'm coming home to you.
Alors, qui était ce double mystérieux Sonny Boy Williamson numéro 2? Voilà ce qu'en dit la bio que lui consacre Gérard Herzhaft dans son encyclopédie du blues. On a eu bien du mal à savoir exactement qui était cet harmoniciste habillé en tenue d'arlequin, avec chapeau haut de forme et redingote de magicien, et qui sortait des harmonicas de sa poche et semblait les embrasser plus que souffler dedans. Sorcier à la barbichette, illusionniste, grand raconteur de bobards, Rice Miller se prétendait l'unique Sonny Boy Williamson. D'ailleurs, n'était-il pas plus âgé que l'autre, celui qui aurait été le véritable imposteur? Et il présentait fièrement son passeport qui mentionnait « Nom, Williams, prénom, Sonny Boy ». Il aura fallu la ténacité de quelques chercheurs pour démêler les chevaux d'une personnalité hors du commun, un des meilleurs bluesmen de l'après-guerre. Né dans le Mississippi, fils illégitime de Millie Ford, il est élevé par son beau-père, Mr. Miller, dont il prendra le nom. Il travaille dans les rizières du sud de l'État et revient chez lui avec les grandes bottes nécessaires à ses plantations en milieu aquatique, d'où le surnom de Rice. Mais Alec Ford, ou Rice Miller, il n'aime guère les travaux agricoles et apprend l'harmonica et la guitare avec un musicien itinérant qu'il suit sur les routes du sud. Vagabond impénitent, allant de village en chantier d'ouvriers pour gagner sa pitance en soufflant son blues, Rice Miller est alors connu comme Little Boy Blue, du nom d'un air célèbre qu'il joue sur son harmonica. Il rencontre presque tous les musiciens du Delta et se lie particulièrement avec Robert Johnson, Robert Junior Lockwood, Elmore James, Robert Nightwalker et Orrin Wolfe, à qui il donne des cours d'harmonica et dont il épouse la sœur aînée. Lorsqu'à partir de 1937, John Lee Sonny Boy Williamson, c'est-à-dire l'autre Sonny Boy Williamson, engrange succès sur succès avec ses disques pour Bluebird, Rice Miller se présente comme étant l'autre, la vedette. Les 78 tours sous le bras, il se fait engager à meilleur cachet dans les juke joints. Il réussit ainsi à présenter le programme King B Street Show d'une radio d'Helena dans l'Arkansas, sponsorisé par la marque de farine Sonny Boy. L'émission le rend très populaire dans le sud profond. Bien qu'il ait toujours prétendu avoir fait des disques dès les années 20, Rice Miller doit attendre 1951 pour enregistrer ses premiers 78 tours. Une vingtaine de grands blues où se remarque son expressivité instrumentale, sa capacité à créer en quelques secondes un climat tendre ou dramatique, un ton sarcastique et malicieux dans des compositions toujours originales, emplies de verve et d'humour. Grand bluesman, poète satirique, la voix, le texte et l'harmonica ne font qu'un. Ses qualités sont encore portées à la perfection lorsque Sonny Boy signe en 1955 un contrat avec les frères Chess. Il enregistre alors à Chicago, entouré des meilleurs musiciens de la ville, une des œuvres les plus accomplies de l'histoire du blues. En 1963, Sonny Boy participe à l'American Folk Blues Festival. C'est le coup de foudre entre lui et le public européen qu'il séduit par sa maîtrise de la scène, un grand sens du spectacle, une facilité d'adaptation aux grandes salles et aux auditoires les plus étrangers, rares chez les bluesmen confrontés alors à une situation semblable. Il est adulé en Grande-Bretagne, où il joue avec ses jeunes admirateurs, les Animals, les Yardbirds, dont Eric Clapton fait alors partie. Sonny Boy Williamson veut même devenir citoyen britannique, séjourne plusieurs mois en Europe, grave des albums extraordinaires de fill-in pour le label danois Storyville. Mais l'appel du Mississippi est le plus fort. Malgré la ségrégation encore vivace et un statut d'artiste qu'il a acquis en Europe, mais de loin pas en Amérique, Sonny Boy rentre au pays en 1965, retrouve son King Bistri Show avec ses vieux compères Robert Nightwalk, le batteur James Peck Curtis et Houston Stackhouse. Quelques semaines plus tard, il meurt dans son sommeil. Sonny Boy Williamson laisse une œuvre considérable qui n'a cessé de grandir. Elle apparaît comme un des grands piliers de l'histoire du blues et même de toute la musique populaire du XXe siècle. Personnalité hors norme, musicien de génie, imité aujourd'hui par des dizaines d'harmonicistes du monde entier, salué partout avec respect, le seul défaut de Rice Miller aura été de vouloir à toute force être un autre pour que son talent soit crédible.
My baby don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. True little baby, my baby. My baby, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby.
Go, 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 go she can't be found. Get up early in the morning, she's 10 Pain Alley bound.
L'histoire est tout aussi romanesque chez les deux Walter de l'histoire de l'harmonica blues. Car oui, là aussi, il y a doublon. D'un côté, le petit, Little Walter, et de l'autre, le grand, Big Walter Horton. Là non plus, aucun lien de parenté entre les deux, et malgré une compétition beaucoup moins exacerbée, ils ont tous deux connu des destins tragiques. Là aussi, l'un des deux périra victime d'un meurtre jamais élucidé au coin d'une rue mal éclairée de Chicago. Il s'agit du petit Walter, Little Walter, entendu dans ce premier extrait, My Baby. Voilà ce qu'écrit Gérard Herzhaft à propos de Little Walter dans l'Encyclopédie du Blues. Venant à Chicago depuis la Louisiane via la Nouvelle-Orléans et Memphis, Little Walter fait la manche sur Maxwell Street en jouant de l'harmonica ou de la guitare. Il y rencontre Snooky Pryor qui lui montre quelques tours d'harmonica, peut-être John Lee Sonnyboy Williamson, Leroy Foster, Jimmy Rogers, etc., etc. Il s'associe avec Muddy Waters et vers 1947, leur country blues dynamique amplifié et exubérant leur vaut une forte popularité dans le ghetto du South Side de Chicago. À partir de 1950, Little Walter apparaît dans les disques de Muddy Waters et contribue largement à en faire les incroyables chefs-d'œuvre que l'on révère aujourd'hui dans le monde entier. C'est presque par hasard que Len Chess enregistre Little Walter en vedette dans une brillante pièce instrumentale, Duke, qui servait de présentation au groupe. Contre toute attente, ce morceau, Duke, est un énorme succès commercial, atteint le numéro 1 des top 40 de Rhythm and Blues. Walter quitte alors Muddy Waters et crée son propre groupe avec Louis Myers, son frère Dave, et le batteur Fred Below, qui formait l'orchestre de son jeune rival, Junior Wells, l'orchestre qui s'appelle les Aces. Suit alors une longue liste de chefs-d'œuvre et encore plusieurs succès commerciaux notables. Walter est à cette époque un leader très exigeant qui travaille des semaines durant chaque morceau avec ses accompagnateurs avant de les enregistrer, conférant à ses disques une perfection et une cohésion rarement égalées. Little Walter avait toujours été difficile à vivre, violent et arrogant, belliqueux, cherchant toujours à tromper et voler les autres. L'énorme succès dont il jouit n'arrange pas son caractère si bien qu'il a beaucoup de mal à garder ses musiciens. En 1954, les bouillants frères Myers laissent leur place au taciturne Robert Jr. Lockwood ainsi qu'au placide Willie Dixon, au moins en studio. Avec eux, Walter grave encore de superbes blues. Cependant, les harassantes tournées à travers les États-Unis, l'abus d'alcool et une vanité paranoïaque commencent à laisser leurs traces sur la musique de Walter. En 1958, même Lockwood le quitte et son départ le prive d'une bonne part des arrangements jazzy qui faisaient l'originalité de ses titres. Les jeunes noirs commencent aussi à se détourner du blues et la popularité de Walter en pâtit. Considérablement affecté par ce revirement à son égard, il devient de plus en plus capricieux et exigeant et finit par faire le vide autour de lui. Il s'appuie alors sur de très jeunes guitaristes, bien plus dociles comme les remarquables Luther Tucker et Freddie Robinson. Après 1960, Little Walter joue de moins en moins souvent en public et n'enregistre plus que sporadiquement. En 1964 et 1967, il vient en Europe où les amateurs de blues l'idolâtrent. Ils assistent stupéfaits à un duel au couteau entre lui et Sonny Boy Williamson, numéro 2, pour une sombre histoire de bouteilles de whisky non payées. Ses prestations scéniques ne sont pas non plus à la hauteur de sa réputation, notamment en 1967, où son inconstance et sa désinvolture déroutent ses admirateurs. L'année suivante, épilogue presque inévitable, il est battu à mort au cours d'une rixe dans les ruelles de Chicago. Quant à Bill Walter Horton, que nous avons écouté sur la deuxième plage avec son Tin Pan Alley, le destin est également tragique. Solitaire, renfermé, inconstant, Bill Walter Horton, celui que ses pères nommaient le suprême harmoniciste, n'a jamais connu le succès que ses talents auraient dû lui assurer. Préférant aller ramasser des oranges en Floride que de partir en tournée, licencié par Muddy Waters pour ses absences répétées, quittant la scène d'un club de Chicago où se trouvait un parterre de critiques et de producteurs pour aller boire une bouteille de whisky dans une ruelle en compagnie d'un vieil ami, Bill Walter Horton n'a jamais couru après la réussite. Une notion que sans doute il ne comprenait même pas. Il manquait de confiance en sa voix, devenue avec les ans rauque à l'excès, et son répertoire restera toujours limité à une même poignée de titres. La fin de sa vie fut sinistre. Reconnu dans le monde entier comme un génie de l'harmonica, il vécut à Chicago dans une misère noire, d'une modeste allocation qu'il obtint en s'occupant d'un couple de personnes âgées. Son appartement dans un immeuble sordide, secoué par le fracas régulier du métro aérien, est d'une saleté repoussante. Les murs sont tapissés des affiches de ses concerts internationaux qu'il contemple assis sur un infâme grabat en se saoulant. Thank you.
my door.
Got me doing something.
something right now that I ain't never did before.
C'était dans l'ordre Chester Burnett, surnommé Howlin' Wolf, littéralement le loup hurlant, pour la première plage, Moaning at Midnight, le murmure de minuit. L'harmonica serait-il alors l'expression d'un loup hurlant au cours d'une nuit de pleine lune, menaçant et avide de mauvaises actions? Une espèce d'animal nocturne qui, quand il a trop bu, devient un danger public et fascine autant que fait frissonner la gente féminine. C'est un peu ce que suggère Carrie Bell dans cette deuxième plage, « When I get drunk ». Quand j'ai trop bu, dis-moi qui va me ramener à la maison. Pour le moment, je suis encore sobre, mais qui sait ce qui peut arriver quand je ne le serai plus. Un autre harmoniciste chanteur victime de la dive bouteille, c'est Jimmy Reed, reconnaissable entre mille autres bluesmen avec ses notes aiguës à la limite du strident et sa voix traînante des matins difficiles. Jimmy utilisait ses harmonicas d'une manière inédite, c'est-à-dire en première position, et non, comme cela se fait habituellement dans le blues, sur la quinte. Jimmy Reed a commis de nombreux succès au cours des années 50 qui ont largement dépassé le seul auditoire blues, devenant un habitué des hit-parades de l'époque aux côtés des premiers rockers. Malheureusement, là aussi, un alcoolisme chronique l'empêcha de tirer un quelconque avantage de cette notoriété, se présentant souvent complètement sous devant son public, ce qui refroidira un grand nombre de promoteurs de spectacles qui rechignera à l'engager sur les grandes scènes à partir de la moitié des années 60. Tragique destin également donc pour cet extraordinaire bluesman qui a composé parmi les plus grands standards du blues. Nous le retrouvons sur un de ses plus grands tubes, « Honest, I Do ».
told you I love you. Stop driving me mad. When I woke up this morning, I never felt so bad.
C'était Sonny Terry avec son hilarant et envoûtant Hootin' the Blues, dont vous n'avez pas manqué de remarquer la très proche ressemblance avec notre jingle de fin d'émission. Sonny Terry fait partie des grands inventeurs de l'harmonica blues, développant dès les années 30 une technique qui fera de nombreux émules et inspirera nombre d'harmonicistes à venir. Voilà ce qu'en dit Gérard Herzhaft à nouveau dans son encyclopédie du blues. Sonny Terry, aveugle durant son enfance, débute dans des medicine shows, joue de l'harmonica et des osselets en dansant avant de vendre une potion miracle. En 1937, il rencontre Blind Boy Fuller, avec qui il s'associe pour jouer dans les rues de Durham, en Caroline du Nord, et devant les fabriques de tabac. Sonny va à New York avec Fuller pour enregistrer. John Hammond s'entiche de sa manière spectaculaire et l'engage pour son célèbre concert « Spirituals to Swing » au Carnegie Hall en 1938. À la mort de Fuller, Sonny se fixe à New York et s'associe avec Brownie McGee. La plupart du temps en duo avec Brownie, Terry enregistre constamment dans les années 40 et 50 pour le public noir des Carolines ou les émigrants récents de New York. Son sens de la scène lui permet de jouer dans plusieurs pièces de théâtre de Broadway et quelques films. Les deux compères s'associent très tôt au mouvement folk protestataire. Cet engagement leur vaut de gros ennuis avec le McCarthyisme. Terry s'en tirera en jouant au nègre idiot devant la commission des activités anti-américaines. Au moment où les Noirs de New York se désintéressent totalement de leur forme de blues, Terry et McGee entament une carrière fructueuse auprès du public blanc nordiste et européen. Séparé de Terry au début des années 80, McGee, quant à lui, s'est installé à Los Angeles où il n'a plus eu qu'une activité musicale sporadique jusqu'à sa mort. Sonny Terry, lui, continue à enregistrer, notamment un album avec Johnny Winter et Willie Dixon, et retrouve le chemin de la scène et des studios de cinéma. Il apparaît notamment dans Purple Color de Steven Spielberg. Parmi la masse d'enregistrements effectués par Terry, il y a naturellement des chefs-d'œuvre de virtuosité et de verve. Sonny Terry demeure un des plus importants représentants du Piedmont Blues et de l'axe migratoire Appalaches-New York. Son jeu d'harmonica exubérant et joyeux, qui renvoie aux premières heures de la musique des plantations, est très représentatif du style montagnard.
I'm itching, and I don't know where to scratch. Come here, baby. Scratch my back. I know you can do it. So, baby, get to it. Ah, you're working with it now. You got me feeling so good. A little bit to the center now, baby. This little girl sure knows how to scratch. Now you're doing a chicken scratch.
C'était « Scratch my back », littéralement « Gratte mon dos », interprété par le bluesman Slim Harpo. En conclusion, on peut se demander si ce n'est pas la caractéristique si particulière de sa structure qui confère à l'harmonica cette dimension fortement sensuelle. Cette bouche qui glisse entre des interstices aspirants puis soufflants, jouant de la langue pour obtenir des nuances comme des convulsions de son, les tordant dans des soupirs, instruments de succion, que n'aurait peut-être pas renié un Dracula s'il s'était converti au blues. Et oui, si le blues est bien arrangé dans la musique du diable, le pervers harmonica est bien son arme favorite. Laissons maintenant à l'un de ses plus grands maîtres, Junior Wells, nous montrer toute l'étendue de sa redoutable et intrigante sensualité. So long.
Oui. Ooh, ooh, wee. I just need somebody. Somebody got to help me. Oh Lord, sing these blues. Look at here. Look at here, baby. Come.
C'était Swing Time 2014, une émission préparée et présentée par Bobby Dirnager. So long, Bobby.
So long.
Woo!